Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Jean.
Oh, toi, Seigneur.
Beaucoup ont entrepris de proposer ainsi des événements qui se sont accomplis comme nous. D'après ce que nous ont transmis, ceux qui, dès le commencement, furent témoins populaires et serviteurs de la femme. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pourquoi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, ses relevés se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue pour le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs de libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vie. Remettre en liberté les opprimés, annoncer l'année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux. Alors il se mit à leur dire, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Acclamons la parole de Dieu.
Il est frappant dans la liturgie d'aujourd'hui de voir comment la proclamation de la parole de Dieu est au centre. Je vous le présente, je vous le démontre de deux manières. Regardez la première lecture. Eh bien, c'est un peuple qui est revenu de l'exil après presque 50 ans que le peuple a vécu en dehors de Jérusalem, en dehors d'Israël. Le peuple est revenu, le gouverneur Néhémie et puis le prêtre Esdras se sont organisés pour reconstruire la ville, rebâtir Jérusalem, rebâtir le temple. Mais le prêtre Esdras voulait tellement que le peuple de Dieu puisse réentendre cette parole qu'il a tellement manqué. Voilà que le jour J est arrivé. Esdras a fait construire une grande tribune en bois par où proclamer la parole de Dieu. Et parce que le peuple ne parle plus la langue hébraïque dans laquelle étaient proclamées les Écritures, il a trouvé des traducteurs pour traduire instantanément au moment où on proclamait les textes hébreux, les traduire en langue araméenne, qui était devenue la langue du peuple. Il a fait cela pour rendre vivante la liturgie de ce jour-là. Il a fait cela pour permettre que la parole de Dieu puisse résonner dans le cœur des auditeurs et auditrices. Et le texte dit, ils ont commencé la proclamation de la parole du lever du soleil jusqu'à midi. Et le peuple était heureux d'entendre cette parole. Il y en a qui pleuraient de joie parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas saisi ces messages. Ça faisait longtemps qu'ils n'ont pas été touchés par la parole de Dieu, qu'ils n'ont pas réentendu ce que Dieu attendait d'eux. Et le peuple s'est mis à célébrer à la fin. Et ça, je veux dire, c'est un jour magnifique aujourd'hui. Il ne faudrait pas, ce n'est pas un jour de tristesse, ce n'est pas un jour d'angoisse. Il faut célébrer et puis il faut manger comme il faut. Mes amis, quand je regarde ce texte, je me rends compte que notre frère, notre ami Esdras, a essayé de voir comment rendre actuel, rendre la parole de Dieu rafraîchissante, présente, accueillante. Nous autres là, dans nos églises, nous sommes invités à faire la même chose. Nous devons nous organiser de sorte que la proclamation de la parole de Dieu soit un moment rafraîchissant, soit un moment de rajeunissement, soit un moment où nous la sentons résonner en nos cœurs. Alors, il faut trouver des façons pour la rendre entre nos liturgies plus parlantes. Voilà pourquoi Saint Gabriel, nous sommes organisés de plusieurs manières. Par exemple, moi personnellement, j'avais été très touché par la liturgie qu'on avait eue et qui a tourné autour des malades, que Antoinette Martin et son équipe, le comité pour les malades, avaient organisé. Il y a eu des personnes qui ont défilé devant nous, qui ont fait le témoignage de leur expérience de maladie et puis de leur expérience de la présence du Seigneur qui les accompagnait grâce à nos prières. Je regarde quand aussi, toujours dans la manière de faire les choses, il n'y a pas longtemps, nous avons invité Nathalie, qui est venue s'exprimer ici devant nous, alors qu'elle célébrait le premier anniversaire de la mort de son fils de 23 ans. Où elle nous témoignait comment elle a vécu dans son cœur de mère, dans son cœur de chrétien, comment elle a vécu sa perte. Il me semble que ce sont deux moments à saisir, c'était pour rendre nos liturgies parlantes, que ça nous dise quelque chose. D'ailleurs, d'ici là à Saint-Gabriel, nous allons organiser un sondage. Et puis, ça permet que plusieurs d'entre nous s'engagent à répondre au sondage. Comment voulez-vous que les choses s'améliorent à Saint-Gabriel? Comment voulez-vous que nos liturgies soient plus parlantes? Comment voulez-vous que nous devenions tous des témoins et témoins de la parole de Dieu? Comment faire? Dans le souci de nous améliorer, dans le souci de progresser, dans le souci de rendre la parole de Dieu actuelle. Dimanche dernier, nous avons eu une rencontre écuménique. Il y a eu quelques paroissiens, paroissiennes qui ont été là, à Saint-Basile. Et puis c'est une église catholique. Alors la liturgie de prière a duré 1h30. Alors à la sortie, quand je partageais l'expérience avec certaines personnes qui étaient là, on a évoqué la situation des catholiques qui étaient là aussi, qui étaient dans notre groupe. Et on disait que pour nous les catholiques, vous savez, 1h30 c'est beaucoup. Dans nos liturgies, quand la messe dépasse 1h, les gens commencent à s'énerver. Alors on veut que les choses durent 1h. 1h c'est suffisant. Alors les autres, ils font un peu plus. En fait, c'est ce que je veux dire. Je ne veux pas dire qu'à Saint-Gabriel, maintenant, il faut célébrer des messes à 1h30 du tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à Saint-Gabriel, même si la messe passe 2, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes après 1h, eh bien, il faut que les gens gardent le sourire. Donc, comme on peut dire, suivre l'exemple, dans la première lecture, les gens qui ont écouté la parole de Dieu, ils étaient joyeux, ils ont célébré parce que Dieu leur a parlé, parce que leur cœur a été touché, parce qu'ils ont senti cette force de transformatrice dans leur cœur. J'ai entendu dire qu'à Vancouver, hier, l'orchestre symphonique célébrait le centenaire de son existence. Alors, ce qu'ils ont fait, dans la ville de Vancouver, ils ont éparpillé en 100 places, 100 lieux, des différents groupes musicaux, des groupes, chaque groupe musical, qui a essayé de jouer la musique durant la journée. Et j'imagine, tu ne vas pas aller à ce groupe-là, écoutez, c'est 1h, finissez maintenant. Du coup, c'est la joie, on chantait. Voyez-vous, pour célébrer le centenaire. Et nous autres là, quand nous célébrons l'Eucharistie, il faudrait qu'il y ait cette joie-là, de centenaire. La joie du jubilé, joie de grand anniversaire, toujours, parce que le Seigneur touche nos cœurs, le Seigneur part à nos cœurs. La deuxième idée qui me fait dire que la liturgie de la parole, la proclamation de la liturgie de la parole se trouve au cœur de cette assemblée, au cœur des lectures d'aujourd'hui, c'est le cas de Jésus. C'est curieux que Luc, au début de son évangile, ne parle pas d'abord des guérisons de Jésus, ne parle pas d'abord des miracles de Jésus, ne parle pas d'abord des actes de puissance de Jésus. Au début, au chapitre 4, il nous parle d'un Jésus qui va à Nazareth pour proclamer la parole de Dieu durant la rencontre dans une synagogue, la rencontre synagogale. Il arrive et il proclame la parole de Dieu. Ce qui est beau, c'est de voir que le Seigneur proclame la parole. Il prend une parole d'Isaïe qui date des siècles bien avant, une parole vieille de plusieurs siècles, et il la proclame avec conviction. Et quand il la commente, il dit que cette parole-là, mes frères et mes sœurs, s'accomplit aujourd'hui. Aujourd'hui, cette parole touche nos cœurs. Aujourd'hui, cette parole-là nous guérit. Aujourd'hui, cette parole-là nous change, nous transforme. Quelle est cette parole-là? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et l'Esprit du Seigneur m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. M'a envoyé délivrer les opprimés. M'a envoyé donner aux aveugles de recouvrer la vue. M'a envoyé libérer les opprimés. M'a envoyé, en fait, pour propager la faveur, l'année de faveur, l'année de la ferveur de Dieu. Cette parole-là, le Seigneur nous dit aujourd'hui, qu'elle s'accomplit dans nos vies. Parce que quand tu réfléchis, tu regardes comment Luc l'a présenté, c'est tout un programme de vie. C'est ça le programme de Jésus. Si vous faites attention, chaque fois qu'il y a un nouvel évêque de Rome, généralement dans un de ses premiers documents, il y a toujours son programme de ministère, comment il pense aider l'Église avec son ministère. Alors Jésus aussi, aujourd'hui, on peut dire que c'est son programme de vie. Alors dans son programme de vie, eh bien, il faut que le pauvre entende la parole de Dieu. Et nous autres là, nous sommes des pauvres. Quand nous faisons une distance intérieure dans notre cœur, nous nous distancions de nos richesses à nous, de notre suffisance. Et que nous nous sentions pauvres pour nous laisser tomber dans les bras de Dieu, pour nous abandonner dans les bras de Dieu. Quand nous rendons compte qu'une pauvreté humaine, nous pouvons toujours dire, nous allons réaliser cela, mais tu as besoin des personnes et d'autres pour te renforcer, pour t'aider à réaliser la chose. C'est ça la pauvreté humaine. En fait, nous nous tournons vers Jésus pour dire, cette parole, la bonne nouvelle, s'adresse à nous aujourd'hui. Eh bien, cette parole vient guérir nous qui sommes devenus des aveugles parce que nous ne voyons pas beaucoup les choses d'en haut, nous ne voyons pas beaucoup les choses du ciel. Nous sommes devenus aveuglés par quoi ? Aveuglés par les choses terrestres, les choses d'en bas. Eh bien, nous sommes devenus aussi des opprimés, des prisonniers parce que nous nous sommes laissés enchaîner par nos penchants mauvais qui prennent toute la place dans nos vies. Alors nous avons besoin d'être libérés par cette parole de Dieu, et la parole de Dieu nous libère aujourd'hui. Trop d'alcool dans ma vie, trop de films dans ma vie, trop de sorties dans ma vie, trop de cigarettes dans ma vie. Je me rappelle quand nous grandissions, alors nos éducateurs nous disaient, vous là, quand vous serez des adultes, quand vous serez des prêtres, ne buvez jamais l'alcool quand vous êtes seul. Buvez toujours l'alcool en compagnie d'autres. Jamais tu es seul, tu prends l'alcool. C'est ce qu'on nous disait. En fait, il me semble qu'on voulait simplement nous insister pour qu'on ne s'habitue pas à le faire seul et puis on tombe dans l'alcoolisme, par exemple. En fait, ce que le Seigneur voudrait dire, cette parole-là vient se concrétiser aujourd'hui, vient nous donner un rajeunissement, vient nous nourrir aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Ça s'accomplit aujourd'hui. Cette même parole-là qui parle des opprimés, elle nous ouvre davantage aux personnes qui sont opprimées aujourd'hui, aux femmes célibataires, aux femmes battues. C'est ce message de libération que le Seigneur apporte à travers nous aujourd'hui. Mais maintenant, pour finir, nous là, nous venons d'être évangélisés. Mais il ne faut pas rester évangélisé. Nous sommes évangélisés pour qu'à notre tour, nous allions évangéliser à l'extérieur. Alors Jésus qui est le Messie, il vient nous habiter parce que lui, c'est un cœur qui vient en fait parler à nos cœurs, à nous. Un cœur avec grand C, avec le C qui est la grande lettre. Et puis, il est aussi amour avec le grand A qui vient nourrir nos petits amours humains. Voilà pourquoi il est Messie. Alors, dans notre manière de vivre, d'accueillir la parole de Dieu, ce que nous devons faire, c'est devenir nous-mêmes les porteurs de la bonne nouvelle que nous venons d'entendre. Juste deux choses. Porteurs de la bonne nouvelle, je reviens sur la belle parole de l'ancien évêque de Rome, Benoît XVI. Lui, il dit, c'est quoi le christianisme? C'est quoi notre vie chrétienne? La vie chrétienne, le christianisme, ce n'est pas une théorie, d'abord. Ce n'est pas une éthique, d'abord. Ce n'est pas une manière de vivre un nouveau monde, d'abord. Le christianisme, c'est d'abord et avant tout la rencontre d'une personne qui est Jésus. Tu as rencontré la personne de Jésus qui est devenue un événement dans ta vie, et c'est cette personne-là qui te porte et qui te conduit à mener ta vie au jour le jour. Alors quand tu es en contact avec tes amis, c'est toujours cet événement-là, Jésus, qui te guide et qui te conduit. Voilà le christianisme. Et deuxièmement, pour devenir porte-parole, je reviens sur le bel exemple de François d'Assise. Lui qui disait à ses moines, à ses religieux, écoutez, c'est bien d'aller à l'université comme vous me demandez de le faire. Allez à l'université, allez étudier. Ayez des diplômes, ayez des maîtrises, ayez des doctorats, c'est bien. Mais n'oubliez pas, quand vous allez revenir, j'aimerais beaucoup que vous enseigniez la parole que vous aviez étudiée à l'université. J'aimerais que vous l'enseigniez d'abord par vos manières de vivre, par votre style de vie, par vos actions. Et si c'est nécessaire, par la parole, par le verbe. Voilà la manière de porter la bonne nouvelle, la manière d'évangéliser par notre vie de témoignage. Conclusion. Il est dit dans l'évangile que les personnes qui étaient dans la synagogue avaient le regard rivé, le regard fixé sur Jésus. Tout le monde le regardait. Alors il me semble, c'est ce que nous devons faire dans nos liturgies, avoir le regard posé sur Jésus. Pas seulement le regard physique, mais le regard du cœur, le regard intérieur. Quand nous fixons notre regard sur Jésus, alors se dégage de Jésus une lumière qui vient nous éclairer, qui vient nous transformer, qui vient nous élever, qui vient faire de nous des témoins de sa parole. Alors, levons le regard, fixons le regard sur Jésus, le regard physique et le regard du corps, et nous serons transformés. Amen.